Bienvenue à Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Je m'appelle Chantal Doré, j'ai 51 ans et j'ai aussi une carte de la FADOC. Ouais, la FADOC, l'ancien nom, c'était la Fédération de l'âge d'or du Québec. Il semble-t-il que oui, à 51 ans, on est considéré comme un aîné au Québec. Et là, moi, oui, je suis un aîné de famille, mais est-ce que ça fait de moi une personne vieille? Puis d'ailleurs, c'est quoi être vieux? Puis est-ce qu'on peut même dire ce terme-là? Chose est sûre, c'est que c'est le temps de transmettre et c'est le temps d'apprendre. Et la plus belle confidence que ma mère m'a fait quand j'ai eu 50 ans, c'est de dire « c'est à ton âge que tu prépares le mien ». Alors, ce que j'ai voulu avec Au fil du temps, c'est écouter ceux qui en ont vu d'autres, ceux qui ont déjà tracé le chemin. Et ce qu'on n'avait jamais vu avec la COVID, c'est un petit peu là, tout le tabou de la vieillesse. Avec ce qui s'est passé dans les CHSLD, ça nous a attristés, ça nous a enragés même. Heureusement, il y a des solutions qui sont en train de se déployer. Et cette émission-là, elle veut participer à ces solutions-là, ces solutions pour vieillir sereinement. Parce qu'on est tous quelque part sur le fil du temps. Les vieux d'aujourd'hui, ce sont les jeunes d'hier et mes fils, ce sont les vieux de demain. Alors, à ce micro, conseils, récits de vie inspirants, je veux entendre des jeunes qui tripent sur leur grand-mère, des adultes qui vivent avec leurs parents ou le contraire, des seniors qui décident de se regrouper pour former des éco-villages. Et bien sûr, on va parler des liens qui nous unissent de génération en génération. Et c'est un peu comme ça qu'on va commencer cette première émission avec la directrice d'Intergénération Québec, Fatima Ladjadj, et un premier exemple de duo intergénérationnel, un fils et un père en affaires, les Caron, Jean-Philippe et Jean-Gilles. Et puis tout ça avec de la belle musique qui nous met dans le même temps. Puis justement parlant d'être dans le même temps, mon fils m'a dit ça l'autre fois, « Toi, maman, dans ton temps. » Puis je lui ai dit, « Tu sais, c'est encore mon temps, c'est tous notre temps. » Puis ça m'a fait penser à cette chanson-là de Charles Aznavour, « Le temps ». Charles Aznavour, c'est un grand pusher de chansons sur le temps, mais celle-là, elle est particulièrement intéressante parce qu'il dit, « Le tien, le mien, qui peut devenir nôtre. » Et c'est un peu ça le but de l'émission « Au fil du temps ». Alors, vas-y le grand Charles, baptise-nous au fil du temps, avec le temps.
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde. Le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient, jamais ne s'arrête, et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et
Ma toute première invitée est Mme Fatima Ladjadj, directrice d'Intergénération Québec, qui s'appelait autrefois « L'amitié n'a pas d'âge ». Puisque l'émission va parler des liens intergénérationnels, ça me semblait essentiel qu'on reçoive celle qui en a vu d'autres sur ce sujet-là des liens intergénérationnels, qu'elle puisse nous donner un petit peu le pouls des liens intergénérationnels et comment ils vont évoluer dans le futur. Bonjour Fatima.
Bonjour, merci de nous inviter dans votre émission.
Oui, ben ça nous semblait essentiel. Vous êtes une naturelle, comme on dit, pour le sujet.
Oui.
Je voulais savoir, Fatima, quels sont les avantages de créer des liens entre les générations?
Écoutez, en fait, le besoin des liens entre les générations est parti d'un besoin essentiel, celui de rompre l'isolement. Et selon des analyses scientifiques, il a été prouvé que le fait d'être isolé, de se sentir seul ou de vivre seul, quel que soit l'âge, augmente de presque 30% les probabilités de mourir prématurément.
Wow.
Ouais. Et puis la solitude et l'isolement qui touchaient un aîné sur trois, comparativement 1 sur 14 en 1951, et un aîné sur 4 pour les jeunes, eh ben, ils se sont par exemple exacerbés aujourd'hui avec le contexte de cette crise sanitaire, pour vous dire à quel point le rapprochement est très important entre les générations. Et nous, à travers notre mission qui consiste justement à favoriser ces liens intergénérationnels pour le développement d'une société ouverte, inclusive et solitaire et solidaire, nous luttons contre ce fléau social justement, qui est l'isolement et la solitude, en encourageant les relations intergénérationnelles dans une dynamique d'échange gagnant-gagnant et en mettant de l'avant bien sûr les bienfaits de ces rapprochements qui sont très nombreux. Selon une étude faite par une professeure chercheure, Madame Julie Fortier à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, dans les liens intergénérationnels, elle dit qu'il y a plus qu'une interaction avec l'autre, il y a une intégration de l'autre l'intégration avec l'autre, elle est de nature bilatérale. Donc ça veut dire que les liens intergénérationnel, garde les aînés à jour sur les différentes tendances et ont un effet positif sur la mémoire, en plus de générer des liens privilégiés. De leur côté, les jeunes, ils apprennent à connaître les aînés sous un autre angle, ce qui contribue donc, entre autres, à contrer l'âgisme et les stéréotypes. Et les stéréotypes. En somme, donc, les liens intergénérationnels, ils facilitent beaucoup la communication entre les générations. Il favorise la socialisation et la compréhension mutuelle. Surtout, il y a aussi l'apprentissage, le partage des connaissances et des informations. Il y a donc une nette amélioration de la qualité de vie, aussi bien chez les jeunes que chez les aînés, tout en générant l'inclusion sociale. C'est quelque chose de très, très important, donc, l'intergénérationnel.
Pourriez-vous nous parler de projets rassembleurs et porteurs auxquels vous avez assisté? Vraiment des beaux exemples, là, des récits de vie là, qui vont nous toucher.
J'ai tellement vu passer dans le cadre du concours que nous lançons chaque année à l'occasion de la Semaine québécoise intergénérationnelle que c'est une multitude de projets. Mais je peux vous parler par exemple d'un projet qui a été récemment soumis dans le cadre du concours de 2020 des initiatives. Oui. Des croisés intergénérationnels, celui du balado diffusion qui s'appelle Au-delà des générations, qui a été par exemple initié par l'Auberge du Cœur, l'Escalier, en partenariat avec le Pas de la Rue, qui est un organisme de réinsertion d'aînés à Montréal. Pour vous dire, c'est quand même deux catégories de personnes qui vivent l'exclusion sociale. Oui. Qui en fait un projet, c'est quand même assez intéressant et porteur. Et le premier objectif de ce projet, c'est de susciter la connaissance de la réalité de l'autre et briser l'isolement. Donc, à travers ces échanges et les discussions, l'idée était de créer donc entre les deux catégories de clientèle, si je puis dire, un espace où chacun pourra partager son histoire, son vécu. Donc, on a mis des aînés qui vivent des problèmes d'exclusion. Et puis des jeunes aussi qui vivent le même problème, ils partagent leur récit de vie. Et puis ce qui est l'avantage là-dedans, c'est qu'il y a la possibilité de promouvoir la résilience. parce que les aînés, c'est sûr qu'ils ont un pouvoir de résilience extraordinaire. Donc c'est une chose qu'ils peuvent quand même communiquer aux jeunes pour ne pas lâcher, pour ne pas plutôt baisser les bras et être plutôt persévérant et puis résilient, quoi.
Tout à fait. En fait, c'est l'esprit de cette émission-là. C'est la sagesse intergénérationnelle. C'est la résilience qui nous est racontée pour nous accompagner dans les prochaines étapes de la vie. Et vous avez souligné avec raison que l'isolement était particulièrement criant en ces temps de COVID. J'aimerais vous demander comment vous pensez que les liens intergénérationnels vont évoluer dans le futur. Par exemple, est-ce qu'on verra plus de projets de cohabitation intergénérationnelle, d'après vous?
Ben oui, écoutez, comme je vous ai dit, dans le cadre de cette crise, nous avons été frappés de plein fouet au cœur même de notre mission, puisque du jour au lendemain, on ne pouvait plus, préconiser le rapprochement physique entre les générations. Donc encourager le rapprochement, c'était devenu un défi de taille dans le cadre de cette crise. Et c'est sûr que nous, on est en train justement dans le cadre de cette crise, et ça, c'est pour nous une occasion de dire d'abord qu'il ne faut pas baisser les bras. Ce n'est pas parce que du jour au lendemain, il n'y a plus d'activités de loisirs ou d'apprentissage présentiel entre les générations qu'il va falloir se dire qu'ils ne peuvent plus se rapprocher, qu'il n'y a plus d'avenir pour l'intergénérationnel. Mais on s'est senti obligé de se mettre un peu en mode solution et de réinventer les liens sociaux. Bon, je vous êtes au courant qu'il y a plein d'activités et d'initiatives qui se font virtuellement. C'est sûr, mais pour nous, ça a été l'occasion ou l'opportunité idéale pour justement mettre de l'avant l'avantage de la cohabitation intergénérationnelle, qui est devenue pour nous le choix de l'avenir. Donc, parce que le logement intergénérationnel représente une alternative qui est viable, qui s'inscrit dans les changements de paradigme nécessaires pour les milieux de vie des aînés. Cette pratique, elle résout à la fois le problème du logement étudiant et celui de l'assistance aux personnes âgées. Parce que vous avez d'un côté les aînés qui comblent une chambre qui est vide, par exemple, et puis en même temps, ils s'offrent un complément de revenu. Et puis on a de l'autre un jeune qui se loge décemment, à moindre coût, mais en même temps, il y a quand même, dans cette colocation, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a une assistance solidaire par rapport à l'aîné qui avec lequel il habite.
Absolument, et on voudra recevoir à l'émission des gens qui vivent concrètement cette réalité-là pour qu'ils nous parlent de leur histoire de vie. Avant de vous demander de présenter la chanson que vous avez choisie, j'ai une dernière question pour vous, Fatima. Vous avez été coordonnatrice dans un organisme au préalable qui s'appelait, je crois, au Rendez-vous des cultures. Et je crois que vous êtes algérienne d'origine.
Oui.
Est-ce qu'on a un problème au Québec, les Québécois de souche, avec nos aînés, la relation aux aînés?
Je ne peux pas dire qu'il y a un problème, mais je pense que c'est une question d'évolution de la société qui s'est modernisée. Qui fait que les gens, la cellule familiale mononucléaire a pris le dessus sur la famille élargie par rapport à d'autres pays ou d'autres cultures qui ne sont pas africaines. Donc, ce qui fait que ce n'est pas nécessairement qu'au Québec que nous ayons un problème avec les aînés, mais disons que les conditions de vie ont changé, ont fait en sorte que on soit obligé de placer nos aînés dans des structures d'accueil qui ont fait que ça a donné les résultats que vous connaissez actuellement dans le cadre de cette crise.
Oui.
Par contre, dans certaines cultures, on n'est pas, d'abord, c'est économiquement, ils ne sont pas tous, disons, certains pays, où économiquement, ils ne sont pas tous bien dotés pour pouvoir créer ce genre de structure à une grande envergure. Mais d'abord, disons qu'il y a encore cette solidarité intergénérationnelle, cette proximité naturelle qui fait que qu'il n'y ait pas eu ce genre de problème de où les aînés sont parqués, si je puis dire, dans un milieu fermé, et puis les enfants et les petits-enfants sont ailleurs.
Oui.
Donc cette proximité naturelle, elle existe encore dans certains pays, mais c'est pas c'est, elle existe encore pour des raisons socio-économiques.
Le but de l'émission, en fait, c'est de susciter davantage ce réflexe-là et avec des organismes comme le vôtre, qui avait plein de ressources, plein d'inspiration, j'imagine qu'on saura justement se réinventer et créer tout plein de projets qui rapprochent les générations. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission et j'aimerais vous demander d'introduire la chanson que vous avez choisie. Je crois que c'est une chanson de Ginette Renaud. Alors, quelle est-elle et pourquoi vous l'avez choisie?
Ben, je pense que c'est parce qu'on est tous de passage sur ce bas monde et que on passe à l'autre un peu. C'est l'idée de la transmission, l'idée de la résilience, l'idée de la sagesse qu'il faut toujours transférer aux futures générations. C'est pour ça que j'aime beaucoup Ginette Renaud, donc je trouve que c'est tellement pertinent tout ce qu'elle chante, donc c'est pour ça que je l'ai choisie.
Donc, on va écouter « On ne fait que passer » et je vous remercie de tout cœur d'avoir passé à notre micro à « On a vu d'autres ». Merci beaucoup, Madame Ladjadj, Fatima, merci, et bonne merci. Continuation.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Quelques éclats de vivre, de trois photos usées, au banc des souvenirs, un cœur des noms gravés, des mots d'amour, des fleurs, que je sème sans compter, de toutes ces couleurs, que va-t-il en rester? Les yeux doux d'une mère, tout près du Saint-Laurent, le sable d'une terre qui coule dans mon sang, de joies en creux de vagues et de doutes en succès, toutes ces batailles, que va-t-il en rester? Un refrain, une trace, un bout d'éternité, que l'air du temps efface, on ne fait que passer. Un refrain, une trace, un rêve partagé, qui nous donne notre place, on ne fait que passer. Dans l'album de famille, des rires, une grande tasse, un coin de feu où brillent des heures inoubliables. Avec les chants du soir, une envie de rêver, toutes ces belles histoires, que va-t-il en rester? Un refrain, une trace, un bout d'éternité, que l'air du temps efface, on ne fait que passer. Un refrain, une trace, un rêve partagé, qui nous donne notre place, on ne fait que passer. Un peu de temps, d'espace, quelques notes oubliées, laissez-moi une place, je ne fais que passer. Je ne vais que passer. Oh. Un refrain, une trace, un bout d'éternité, que l'air du temps efface, on ne fait que passer.
On aurait vraiment aimé recevoir pour cette première émission la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais. Vous comprendrez qu'elle est très occupée en ce moment à mettre en œuvre tous les changements nécessaires pour améliorer la qualité de vie de nos aînés. Comme elle est aussi auteure du livre « De l'approche aidance à la bienveillance », Mme Blais sera à ce micro plus tard cette saison. Elle nous a toutefois envoyé un mot d'encouragement que j'ai le plaisir de vous lire à l'instant. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous adresser quelques mots afin de souligner le lancement de cette nouvelle émission sur les ondes de Canal M. Comme vous savez, le bien-être des aînés est au centre de mes préoccupations. J'en ai fait ma cause et mon combat, et j'entends déjà bien mettre tout en œuvre pour faire de notre société un endroit où il fait bon vieillir. Je suis touchée de voir que cette cause vous tient à cœur également. Mon objectif est que nous travaillions tous ensemble, et ce, à tous les échelons de la société, pour offrir aux aînés la place de choix qui leur revient. Cela implique, bien sûr, de combattre les préjugés à leur égard, ainsi que l'âgisme, et de favoriser le mieux possible leur participation active à la vie de la collectivité. Je salue notamment la place qu'occupera les liens intergénérationnels dans votre programmation. Plusieurs initiatives permettent en effet de favoriser les échanges entre les personnes âgées et les plus jeunes, et les bénéfices sont nombreux pour tous. Forts de leur savoir et de leur savoir-faire, les aînés ont accumulé un bagage souvent impressionnant de connaissances et d'expériences. Ce bagage est une richesse inestimable qui gagne à être partagée avec les autres générations. En comparaison avec le reste du monde, le Québec est l'un des endroits où le vieillissement de la population est le plus marqué, ce qui rend essentiel la mise en place d'actions favorisant le bien-être et l'épanouissement des aînés. Cette émission sera sans doute une belle tribune pour partager vos bonnes idées et vos solutions pour aller plus loin. Je crois que nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour faire de notre société un endroit où il fait bon vieillir. C'est pourquoi il était important pour moi de souligner aujourd'hui cette initiative, mais surtout les efforts des personnes devant et derrière le micro. Je vous souhaite le meilleur des succès. Marguerite Blais.
suis devant la porte de la taverne où tu ne viendras plus. Et la chanson que la nuit m'apporte, mon cœur déjà ne la connaît plus. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Le lendemain avait un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait.
C'était Le temps des fleurs de Dalida, Le temps des fleurs pour une marguerite. On la remercie d'ailleurs pour son mot d'encouragement. Ce dimanche, c'est la fête des pères et il va sûrement y avoir beaucoup de rendez-vous intergénérationnels, que ce soit en personne à 2 mètres ou via Zoom. Et on reçoit un duo fils et père en affaires qui vont nous parler des bienfaits de cette relation-là intergénérationnelle, mais aussi des petits défis que ça peut amener de travailler avec son fils ou avec son père. Et je reviens sur une initiative extraordinaire de la nonagénaire la plus dynamique du Québec. Vous êtes toujours à Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Ici Chantal Doré, nous sommes ensemble encore pour les 30 prochaines minutes. Avant de vous présenter mes prochains invités, le duo père-fils Jean-Philippe et Jean-Gilles Caron de Protocole, vu que c'est la fête des pères, je veux dédier une chanson à mon père. C'est une chanson qu'il m'a fait connaître quand j'étais toute petite. C'est une chanson d'espoir et de résilience, et je pense que c'est le rôle des parents de nous amener à voir que dans les moments difficiles, il y a toujours autre chose au bout de la nuit. Alors, Papa Serge, je sais que tu aurais sans doute préféré une chanson en français, mais c'est cette chanson-là qui s'est imposée à moi. Et comme toi et ta douce Léla, vous dites toujours « il n'y a rien qui arrive pour rien », alors ben, je t'offre « You Light Up My Life » de Debbie Boone.
Sit by my window, waiting for someone to sing me his song. So many dreams I kept deep inside me, alone in the dark, but now you drift on the water,
Pour souligner la fête des pères, je discute avec un duo d'entrepreneurs, fils et pères en affaires. Jean-Philippe Caron, fondateur et président de Protocole, crée des trophées sur mesure pour souligner différents exploits et son père, Jean-Gilles Caron, est décrit comme la force tranquille de Protocole. En juin 2016, Protocole a réussi tout un exploit, concevoir le trophée du Grand Prix, un honneur prestigieux. Bon, l'événement n'a pas lieu pour les raisons qu'on connaît cette fin de semaine, mais j'avais envie de les recevoir parce que ce qui me semble vraiment un exploit, c'est de travailler ensemble, fils et pères, pendant plus de 15 ans, tout en gardant la relation familiale. Alors, je connais Jean-Philippe depuis un bon 20 ans, le début de l'an 2000, donc je vais le tutoyer, mais je vais vous voyez Jean-Gilles. Fait qu'on va faire cette petite gymnastique-là. Bonjour, messieurs!
Bonjour! Salut, Chantal!
Bonjour!
Alors, j'ai posé la première question au créateur d'exception. C'est ainsi, Jean-Philippe, que tu te présentes sur le site Internet de Protocole. Alors, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu crées d'exceptionnel?
Bien, en fait, la base de mon travail, c'est de créer des trophées. Donc, c'est ça. C'est parti d'un premier projet qui est venu comme un coup de chance en 2005. Lorsque j'ai rencontré le directeur adjoint des championnats du monde de la FINA. Donc, c'était pour créer les médailles des championnats du monde. Puis, cette opportunité-là m'a été présentée sans que j'aie jamais rien créé avant dans ma vie. Puis, j'ai eu un flash. J'ai dessiné la médaille qui est devenue, selon plusieurs, une des plus belles médailles de l'histoire du sport.
Elle est magnifique, en effet. Un très beau Merci. Bleu, très, très beau.
Effectivement. Puis c'est un peu là que ma carrière, entre guillemets, a été lancée ou s'est lancée. C'est avec l'opportunité de créer cette médaille-là qui m'a révélé que j'avais un talent en termes de concepteur ou de design, surtout d'objet de reconnaissance. Donc, tu sais, je me passionne pas pour autre chose. Ce que j'aime, c'est concevoir des trophées, dessiner des trophées qui vont soulever les passions, qui vont inspirer les gens. Pourquoi je me dis, bon, créateur d'exception, c'est surtout parce que l'entreprise s'appelle Protocole Trophée d'Exception. Puis, je crée des trophées pour les gens d'exception, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis créateur ouais. d'exception, c'est pour souligner l'exceptionnel chez les gens qui accomplissent des choses exceptionnelles.
Oui, puis ça joue sans doute là un gros rôle pour marquer la mémoire de cet exploit-là. Donc, oui, c'est fascinant. C'est des très, très beaux objets que tu conçois. Et à tes Merci. Côtés, il y a celui qu'on présente sur le site Internet comme le générateur de confiance, Jean-Gilles. On vous présente comme l'âme sage chez Protocole et l'architecte du bien-être. Alors, c'est quoi votre rôle exactement auprès de Jean-Philippe?
Écoute, mon rôle auprès de Jean-Philippe, c'est vraiment la gestion de la compagnie, mais en même temps de la gestion des projets. Puis le tout a débuté, Jean-Philippe le dit, en 2005. En 2005, ce projet-là nous est arrivé. Moi, je travaillais ailleurs, j'avais un poste ailleurs. Puis là, à l'ampleur que ce dossier-là pouvait avoir, j'ai dit à Jean-Philippe, j'ai dit, si on veut réaliser ce projet-là, il faut absolument que je sois à plein temps. Puis il a dit, OK, on y va à plein temps. Puis c'est comme ça que l'aventure a démarré en m'occupant de l'ingénierie, la gestion, un peu le côté là, plus terre-à-terre et pratique de l'entreprise.
Mais je pense que vous êtes ingénieur, voilà. Je crois, de formation.
Ingénieur de formation, c'est ça, oui.
J'étais curieuse.
Ce que mon père essaie de dire, en fait, Chantal, ce que mon père essaie de dire, c'est que moi, je crée des affaires qui sont complètement éclatées, puis lui, il s'organise pour que ça
tienne. Que ça tienne ouais, sur une tablette. Ben justement, Jean-Philippe, j'étais curieuse de voir quelle influence a eu ton père sur toi, parce qu'un ingénieur, j'imagine que ça bricole, ça démonte des affaires. T'as dû voir ça peut-être quand t'étais petit?
Ben c'est sûr que oui. Moi, j'en ai fait des études en ingénierie aussi. Mm-hmm. J'ai pas complété mon bac, Mais c'est sûr que mon père a influencé ma décision d'aller vers ce champ d'études-là. Oui, effectivement, mon père, c'est un patenteux ou c'est un démonteur d'affaires qui remonte par la suite. T'sais, il y a tout le temps un paquet de choses dans son établi qui sont démontées, qui est en train de construire. C'est certain que ça a dû m'influencer parce que moi aussi, j'ai tendance à vouloir démonter les affaires, mais je suis plus capable de les remonter par la suite. C'est un autre truc, là. Mais oui, tu sais, j'ai un esprit qui est curieux, qui a le goût de voir comment les choses fonctionnent. Puis c'est certain que de le voir aller à bricoler, à patenter, à organiser un paquet d'affaires, ben ça m'a influencé, c'est certain. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé aussi avec un sculpteur de bronze qui s'appelle Kiev. C'est un sculpteur de renommée internationale et j'ai été son assistant dans sa fonderie. Donc, j'ai assisté à, si tu veux, là, couler des sculptures de bronze, les démouler, venir les sabler, les grinder, les polir. Puis son travail m'a beaucoup influencé aussi dans ma façon, ma perception de voir les œuvres, la sculpture, parce que c'est un petit peu ce que je fais, les trophées que je crée, pourquoi ils se démarquent beaucoup, c'est parce que c'est plutôt une vue très artistique que je veux donner à mon travail,
Absolument.
et très différente de ce qu'on voit normalement là, en termes de création de trophées sur le marché. Je pense que c'est pour ça qu'on connaît le succès qu'on connaît également.
Ben, moi, je suis intéressée aussi à voir comment cette relation-là, père-fils, contribue à ce succès-là. Et j'ai cru comprendre que ça fait très longtemps que Jean-Gilles croyait à ta fibre entrepreneuriale. Jean-Gilles, je pense que vous lui avez fait un beau cadeau pour ses 18 ans, Jean-Philippe, ça se peut?
Ah oui, possiblement, peut-être. Est-ce qu'on parle d'Anthony Robbins?
Oui!
Ah, ben oui, ben c'est ça, c'est qu'à 18 ans, ben écoute, je vais te conter là, un petit peu là, plus que ça.
Ben oui.
Philippe avait 18 ans, ben Anthony Robbins vient à Montréal. Alors, j'achète les billets, puis on s'en va passer la journée avec Anthony Robbins pour développer, là, se développer soi-même, puis voir ce que c'est là, vraiment le développement personnel. Mais, pour finir l'histoire, 25 ans plus tard, Anthony Robbins est venu à Montréal il y a 2 ans.
Oui.
Je suis allé passer la journée avec Anthony Robbins, mais avec Clarence, le
Le
plus vieux
petit,
de
oui,
Jean-Philippe,
le
qui avait
petit-fils.
17 ans.
Wow.
Voilà.
La boucle est bouclée, comme on dit.
Voilà, je ne suis pas sûr que je vais aller à la troisième génération, là, mais au moins j'en ai fait deux.
Oui, c'est
Oui,
extraordinaire.
oui. J'ai toujours cru profondément que le développement personnel, c'était la clé du succès.
Absolument.
Alors, j'ai toujours emmené Jean-Philippe à aller chercher des mécanismes, des moyens, des outils pour grandir de plus en plus dans son travail, dans sa façon de faire, dans sa vie, et ainsi de suite.
Ben, ce que je comprends, c'est que ça fait partie des bénédictions de votre relation parentale, d'avoir un père qui croit en soi. Mais j'ai envie de demander, c'est quoi aussi les défis, peut-être plus crunchy des fois, là, de travailler avec son père ou de travailler avec son fils? Y a-t-il des fois où c'est challengeant?
Ben ça dépend de quel côté tu te
Oui,
places.
c'est ça.
Si tu es dans une entreprise, vois-tu, c'est différent le contexte. Si tu es dans une entreprise que le père a créée, puis que le fils vient se joindre, c'est une dynamique. Mais là, on est dans la dynamique contraire. C'est le fils qui a créé l'entreprise, puis c'est le père qui vient se joindre. Alors, c'est le moteur, la locomotive, c'est Jean-Philippe. Alors, moi, je dois être un peu plus, comment je pourrais dire ça, conciliant, être un peu plus réservé dans mon approche parce que c'est lui qui est la locomotive. Alors, ça change la dynamique un petit peu.
De ton côté, Jean-Philippe, comment ça t'influence la relation parentale à ton père, la relation avec ben, ton associé, ton collègue? Comment tu vis ça, ces défis-là?
Bien, c'est sûr que T'sais, nous, on compartimente pas vraiment notre relation, là, dans le sens que on parle de la business tout le temps. Mm. Peu importe le moment, tu vois. C'est pas parce que 9h le vendredi ou 5h le vendredi fin de journée va sonner qu'on décide qu'on n'en parle plus. Là. Donc, si on a à se voir, si on a à se parler, ben on le fait. Puis, tu sais, il n'y a pas vraiment de règlement là, par rapport à ça. Mais ce que je te dirais, tu sais, l'avantage que j'ai, moi, à travailler avec mon père, c'est que je sais que je peux lui faire confiance à 100%.
Oui, oui, absolument.
Tu vois, la famille, c'est ce qu'on a de plus précieux. Mm. Puis évidemment, lorsque tu considères que ton père travaille avec toi puis que tu prends une décision, ben tu sais que lui va travailler dans le sens de ta décision, que lui prenne une décision, ben tu sais qu'il va toujours prendre ça pour le... qu'il va prendre cette décision-là pour t'amener de façon positive où on doit aller. Tu sais, il n'y a pas vraiment de guerre ou de chicane d'associés ou de se demander mm-hmm. qu'est-ce qu'on va faire. Tu sais, mon père, on va dans des événements ensemble. Ben, tu sais, je suis fier de le présenter à nos clients. On va toujours passer, lorsque c'est le Grand Prix de Formule 1, tu en parlais tantôt, là, des trophées oui. qu'on a fait. Là, ça fait quand même depuis 2015 qu'on fait le trophée. Donc, ça fait plusieurs années qu'on fait ce trophée-là, puis on va passer de la fin de semaine ensemble dans les paddocks, puis on rencontre nos clients. Mm-hmm. Donc, tu sais, il y a vraiment une belle synergie qui est créée, puis ça impressionne beaucoup aussi les gens de voir un père et son fils travailler ensemble.
Absolument.
Il y a une question de confiance. Hein?
Non, c'est merveilleux. Puis
on en a parlé.
Avant de vous demander de présenter votre chanson, j'ai une petite dernière question rapide. Si vous aviez à vous remettre mutuellement un trophée, ça serait un trophée de quoi?
Ah!
Ben écoute, je peux peut-être en parler. Ben moi, c'est sûr que ce serait le trophée du plus grand supporteur de mon travail, là, ouais. qui est mon père.
Grand
mais pas juste de mon travail dans la compagnie, mais dans mon travail, dans ma vie aussi en général. Mm-hmm. Il y a une business qu'on a ensemble. Mais moi, j'ai une petite famille, j'ai 3 enfants que j'élève tout seul à temps plein. Mm-hmm. Souvent, moi, j'ai des enfants qui viennent au bureau là, quand l'école se termine. À 4h30, 5h, mon plus jeune s'en vient, il rentre dans le bureau de mon père, puis mon père l'aide à faire des devoirs pendant que moi, je fais d'autres choses, tu vois. Ça va au-delà de juste l'entreprise, notre relation. Il y a une relation de famille très, très importante. Là, puis c'est sûr que ce serait le trophée de la confiance que je lui donnerais.
Puis de votre côté, Jean-Gilles?
Quand un vélo est brisé, c'est moi qui le répare.
Puis quel trophée vous donneriez à Jean-Philippe?
Ça serait vraiment, là, Jean-Philippe, c'est un créateur naturel. Puis, créateur, pas juste de trophées, créateur de concepts, créateur de langage, créateur de présentation. Tu lui donnes quelque chose, puis il va le rendre attrayant, agréable, extraordinaire.
Alors, on va lui donner le trophée de la créativité.
Ah, pas à peu près.
Messieurs,
créativité avec un peu.
Avec un grand A. Je vais vous laisser présenter votre chanson pour conclure notre entrevue. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire entendre?
Mm-hmm. En fait, moi, la chanson que j'ai choisie, c'est une chanson qui a été popularisée par Frank Sinatra.
Mm-hmm.
Qui s'appelle « Come Fly With Me ». Normalement, lorsqu'on entend cette chanson-là, on imagine que Frank Sinatra la chante à une personne, une femme qu'il aime. Mais de façon, si on lit les paroles, ça pourrait s'appliquer un peu à n'importe qui, dans le sens que c'est quelqu'un qui invite quelqu'un d'autre à s'envoler, tu vois, comme fly with me, puis on va se dépasser, on va avoir des poussées d'adrénaline incroyables ensemble, on va survoler les montagnes. Donc je trouvais que cette chanson-là, même si Frank Sinatra la chante à son amoureuse, je trouvais que je pouvais ou que mon père et moi on pourrait se la chanter aussi, là, parce que ça parle des folies de grandeur qu'on peut faire dans la vie pour arriver à certaines choses.
Absolument, c'est un excellent choix et je pense que vous vivez cet envol-là ensemble. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir contribué à notre toute première émission et on écoute Come Fly With Me de Sinatra.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
Ah, le merveilleux Sinatra. Moi, j'irai très loin avec lui. Et j'ai envie aussi de dire une bonne fête des pères au papa de mes fils. Vous m'avez fait deux cadeaux merveilleux, mes fils Simon et Vincent. Alors, je dis une bonne fête des pères à Luc et Hugo. Là, on a parlé des pères, mais j'ai envie aussi de vous parler des mères, hein, parce que des enfants, ça se fait à deux. Donc, on va parler aussi des mères, parce qu'on n'a pas pu commencer cette série-là pour la fête des mères, parce qu'il y a eu cette fameuse COVID-là. Et donc, on n'a pas pu commencer à ce moment-là, mais tu sais, comme John Lennon dit, « Life is what happened to you when you're busy making other plans », ben voilà. Alors, je me reprends parce que j'ai envie de vous présenter une mère extraordinaire, mais surtout une grand-mère et une arrière-grand-mère. En fait, elle a eu son sixième arrière-arrière-petit-enfant, Charlie, et c'est la nonagénaire la plus haute du Québec. Je suis à peu près sûre que la chanson « J'aime ta grand-mère », ça a été fait, oui, pour Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand, notre Jeannette nationale que j'aime d'amour, et qui, à 95 ans, s'est dit pendant le confinement, « C'est pas vrai que je vais rester à rien faire, alors je vais aider les aînés à raconter leur vie. » Jeannette, elle nous avait déjà donné sa propre autobiographie, qui est « Ma vie en trois actes » chez Guy Saint-Jean Éditeur, que je vous recommande si vous avez envie là, d'un parcours extraordinaire. Elle a aussi écrit « La vieillesse par une vraie vieille », alors, vous comprendrez que j'ai très, très hâte de la recevoir à notre émission. Et là, je vous parle de cette initiative-là parce que ce sont une série, en fait, c'est une série de 8 capsules vidéo où on accueille Jeannette chez soi, dans notre écran d'ordinateur, et Jeannette nous guide sur comment écrire notre autobiographie en 8 blocs différents. Donc, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir le bloc sur l'âge mûr, de 40 à 70 ans. Et ça parle des peurs, les réalités, des expériences de cette époque-là de notre vie. Donc, les premiers enfants qui quittent la maison, la peur de vieillir, la solitude, la maladie, et surtout du bagage extraordinaire qu'on a déjà amassé et qu'on peut à notre tour partager aux autres. Alors, je vous invite à aller au centreavantage.ca. Vous allez retrouver les 8 capsules de Jeannette. Et c'est une initiative qui a été faite avec l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. centreavantage.ca. Depuis que j'ai lancé cette émission-là, évidemment, moi, je suis une boulimique d'informations, alors je lis plein de trucs sur comment vieillir en santé et sereinement. Et je suis tombée sur ce blog-là de Chartwell, une résidence pour retraités. C'est un article sur 4 leçons de vie. 4 leçons de vie que des retraités qui sont chez Chartwell avaient envie de partager, de nous partager en fait. Donc, il y a 1. Réaliser ses rêves. 2. Trouver sa vérité. Sa vérité à soi, pas celle des autres. Vraiment celle qui nous correspond. Puis on va faire une autre émission un peu plus tard sur les regrets. Et ça, c'est souvent un des regrets que les gens ont de ne pas avoir réussi à trouver leur vérité, à garder leur chemin selon ce qui leur tient à cœur à eux. Numéro 3, leçon de vie sur cet article-là, être ouvert au changement. Et numéro 4, prendre soin des autres. Et moi, je le trouve extraordinaire parce qu'au fil du temps, c'est exactement ce qu'on veut faire, prendre soin des autres et vous donner un paquet de conseils là, pour vieillir sereinement. Et on s'aperçoit que lorsqu'on prend du temps avec les autres, quand on cultive une vie amicale très riche, bien, on est en meilleure santé. Alors, c'est le rendez-vous que je vous donne au fil du temps. Yeah! Notre toute première émission est terminée. Je suis contente d'être avec vous. Et j'ai envie de dire un gros merci à l'équipe qui m'a accompagnée pour cette première émission. Louis Garon, chef d'antenne Canal M. Jean-Sébastien Laliberté pour l'indicatif musical et la mise en onde. Et Marjorie Théodore, PDG de Vue et Voix, qui a dit oui à ce beau projet d'émission intergénérationnelle. La semaine prochaine, j'espère que vous allez être des nôtres parce qu'on reçoit le comédien et auteur François Grisé qui a vécu toute une aventure anthropologique, presque, en allant vivre dans une résidence pour aînés alors qu'il a mon âge et il en a tiré une pièce documentaire qui s'appelle « Tout inclus ». Alors, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine à « Au fil du temps », l'émission qui relie les générations.